ça, c'est un... non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le, ce qu'on appelle, enfin, c'est, la, c'est un peu l'approche marxiste, puisque l'Uchronie oscille entre, je dirais, une approche marxiste, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'histoire des sciences, et puis l'événementiel, l'homme providentiel. Ben, effectivement, Hitler a un accident de voiture en 1933, il meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est sur un événement vraiment bien précis. Par contre, la, la non-invention ou l'invention de la bombe atomique est par qui, du chemin de fer, etc. Comme disait quelqu'un, quand il est l'heure que le chemin de fer soit inventé, il finira par être inventé, que ce soit un tel ou une telle qui mette aux places la première machine. Bon. C'est à la fois vrai et faux, c'est ça le paradoxe d'ailleurs, c'est que quand on regarde vraiment l'histoire des inventions, il y a pourtant une invention absolument essentielle, qui nous touche tous aujourd'hui, qui semble n'avoir été inventée nulle part ailleurs qu'à l'endroit où elle a été, c'est le papier. Oui, parce qu'on a l'exemple de plein de civilisations qui est de coin du monde qui n'avaient pas le papier, qui apparemment, on dit toujours un concept, quand il doit arriver, arrive, et bien la roue également, oui, voilà, et bien c'est à la fois vrai et faux, et c'est d'ailleurs, il y a plusieurs contre-exemples assez marquants de cette approche, que je qualifie de marxiste volontairement, puisque effectivement l'approche marxiste c'est de dire quand une révolution est prête, peu importe qui va la mener, hein, ce sont les courants plus qui font l'histoire que les hommes. Hein, c'est par opposition à ceux qui ont une approche très, très événementielle qui disent Churchill fait l'histoire, Hitler fait l'histoire, et si on les règle, l'histoire est franchement différente. Mais il y a des contre-exemples dans les deux cas, hein, et des contre-exemples de taille. Donc c'est beaucoup moins simple qu'il ne semble paraître.
Rappelle-toi de notre conversation à Jean. L'hypothèse suivante, ou la non-apparition du cheval.
Oui, alors ça, c'est un truc très passionnant, parce que moi, j'ai découvert grâce à l'Uchronie, c'est que le cheval, l'équidé, pardon, ne peut pas exister aux Amériques globalement avant moins 12 000, je ne dis pas de bêtises, non, c'est le contraire, après moins 12 000, moins 13 000 à peu près, après la glaciation du détroit de Bering et avant l'arrivée des conquistadors. Alors, globalement, les spécialistes d'évolution des espèces le savent, mais je suis désolé, on ne l'a pas appris à l'école et j'ai découvert grâce à une très belle uchronie qui s'appelle Histoire d'os. Les équidés modernes tels qu'on les connaît en Eurasie et en Afrique sont tous originaires des deux Amériques, n'existaient d'ailleurs avant la glaciation du détroit de Bering, leurs ancêtres en tout cas, que sur les deux Amériques et absolument sur aucun des autres continents. Ils ont fait le chemin inverse apparemment des hommes. Ils ont migré à travers le détroit de Bering. Et surtout, les races se sont éteintes des deux Amériques. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches à ce propos. Et ils ont été ramenés par l'homme blanc. Ce qui fait d'ailleurs que quand on voit, et ça, c'est quand même dit souvent, hein, quand même dans les westerns, tous les Indiens à cheval, c'est quand même des chevaux qu'ils ont capturés, des chevaux sauvages, comme les chiens, le dingo, il n'est jamais qu'un chien sauvage réintroduit par l'homme blanc en Australie. Ce sont des chevaux qui se sont échappés au départ et qui sont devenus chevaux sauvages et qui ont été recapturés par les Indiens. Ce qui fait que si on raye le détroit de Bering, si on raye la glaciation de Bering, pardon, de l'histoire, et donc là, on fait de l'uchronie météorologique, ou je ne sais pas, enfin en tout cas cosmique, puisqu'il doit y avoir des raisons solaires, je suppose, à tout ça, ça a deux conséquences. Déjà, c'est la colonisation humaine, en tout cas par le Nord, parce que je sais qu'il y a quelques nouveaux débats qui se créent là-dessus, de l'Amérique. Et inversement, la mise à disposition de cheval aux civilisations indo-européennes, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, un atout extraordinairement important dans plusieurs histoires. Le cheval a très longtemps été, jusqu'à quasiment romain, le messager d'information, le premier vecteur d'information pour un général ou autre sur la position de l'ennemi. Ce n'était pas une arme de guerre, mais c'était une arme d'information, puisqu'elle permettait à un cavalier très rapidement de remonter les informations. Et elle a été ensuite une arme de guerre redoutable. Donc voilà. Donc dans un grand soir, effectivement, avec des paléontologistes et des amateurs d'Uchronie aux États-Unis, nous avions déliré à savoir ce que serait devenue la civilisation européenne sans cheval avec des spécialistes. Alors ils avaient vite éliminé l'éléphant pour sa fragilité, maintes fois démontrée, y compris dans les Alpes, puisque en fait apparemment aucun éléphant n'a atteint les plaines du Pô. Moi je fais confiance, arrivé devant Rome, enfin pas très loin de Rome, il n'y avait plus aucun éléphant vivant apparemment, parce qu'on dit toujours que quelques-uns ont survécu, mais apparemment bon, il y a des textes romains ou latins qui décrivent le contraire. Donc bon, en tout cas, si je ne vais pas me battre avec toi, mais il y en a peut-être un ou deux qui ont survécu, mais les éléphants ne tiennent pas la longueur.
Non, mais ils étaient en panique.
Et donc, moi, on était arrivé finalement à quoi, juste pour vous faire rigoler, c'est que l'animal qui aurait pu être domestiqué, on voit bien qu'avec les chiens, partant d'un loup primitif, on a quand même réussi à faire et le chihuahua et le Saint-Bernard. Donc l'homme arrive quand même en près de 20 000 ans, 30 000 ans, uniquement par des brassages, à créer quand même des races artificielles très différentes. On était parti du sanglier, et qui est quand même un animal extraordinairement coriace, extraordinairement intelligent, et qui, on le sait, pour certains sangliers, peut devenir très gros. Et donc, si on les avait rendus un peu plus gros, on aurait pu en faire des montures. Et donc, nous étions amusés à écrire des hordes de soldats montés sur des sangliers, se battant, enfin, etc. Voilà. Mais ça pose quand même des questions intéressantes, et on découvre des choses comme ça marrantes. Ah ben non, parce que le sanglier, on est bien d'accord, tout à fait tabou, absolument. Oui, non, mais oui, ils auraient dû revoir la religion et ça crée un autre point de divergence, effectivement.
Oui, Napoléon aurait été battu dans les Ardennes.
Voilà, c'est... Non, par contre, oui, le problème de la cohérence historique est intéressant, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit les limites du genre. Entre le point de divergence, il y a deux temps importants, c'est le point de divergence, évidemment, et le temps du récit. Si l'écrivain place son point de divergence 1000 ans avant le temps du récit, bon, il peut imaginer, comme je viens de le dire, des Détroit de Bering ou 10 000 ans ou autre, et puis décrire les batailles napoléoniennes à coups de sanglier, c'est sympa, c'est ludique, mais c'est la théorie du chaos, quoi. Si on change cet événement il y a 12 000 ans, quelle est la probabilité d'avoir Napoléon Bonaparte encore existant, et même la France telle qu'elle existant, j'en sais rien, j'avoue que là on rentre dans un autre débat. Et donc, pour le texte, c'est intéressant et ludique, comme on le voit d'ailleurs avec le steampunk souvent, mais en termes de cohérence historique, les limites sont très, très largement atteintes. À l'inverse, certains se contentent de ce que j'appelle l'uchronie en vrai, c'est souvent les uchronies militaires. Ils décrivent le débarquement au Japon, faute de bombes atomiques mises au point, et donc entre la première page du roman et la dernière page, je passe 4 ou 5 jours, heure par heure. C'est la chronique du débarquement, donc là on fait la succession immédiate des événements, point. Bon, entre les deux, il y a des échelles de temps, mais la limitation, c'est de vouloir mettre trop de cohérence entre le point de divergence et le point du récit, parce que ça peut faire des textes intéressants historiquement pour quelques historiens, mais des textes profondément chiants pour un lecteur, puisqu'on en perd l'aspect romanesque à vouloir mettre trop de cohérence. Hein.